France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lorsque Antonin Artaud s'embarque pour le Mexique en 1936, il est en quête d'une forme de rédemption. Une rédemption qui adviendrait par la grâce de cette terre chargée, selon lui, d'énergie et de traditions ancestrales. Dont celle du peuple Tarahumara, qui donna d'ailleurs son nom à l'ouvrage qu'Antonin Artaud publia pour raconter son voyage. Aujourd'hui encore, ses lecteurs peuvent se demander ce que devient ce peuple Tarahumara dans le nord du Mexique. Si le rituel du peyote, leur cactus sacré, continue d'y avoir cours. Bref, comment on vit dans ces communautés. Et c'est pour tenter de répondre à ces questions que Jacques Meunier était parti sur les traces d'Artaud en 1981 pour réaliser cette émission, La matinée des autres, autour des mémoires Tarahumara.
Il y a au nord du Mexique, à 48 heures de Mexico, une race de purs indiens rouges, les Tarahumara. 40 000 hommes vivent là dans un état comme avant le déluge. Ils sont un défi à ce monde où l'on ne parle tant de progrès que parce que sans doute on désespère de progresser. Cette race qui devrait être physiquement dégénérée résiste depuis 400 ans à tout ce qui est venu l'attaquer. La civilisation, le métissage, la guerre, l'hiver, les bêtes, les tempêtes et la forêt. Elle vit nue l'hiver dans ces montagnes obstruées de neige, au mépris de toute théorie médicale. Le communisme existe chez elle dans un sentiment de solidarité spontanée. Si incroyable que cela paraisse, les Indiens Tarahumara vivent comme s'ils étaient déjà morts. Ils ne voient pas la réalité et tirent des forces magiques du mépris qu'ils ont pour la civilisation. Ils viennent quelquefois dans les villes, poussés par je ne sais quelle envie de bouger, voir, disent-ils, comment sont les hommes qui se sont trompés. Pour eux, vivre dans des villes, c'est se tromper. Ils viennent avec femmes et enfants à travers d'impossibles trajets qu'aucun animal n'oserait tenter. Aller voir, aller droit à leur route, à travers les torrents, la terre qui s'éboule, les taillis épais, les escaliers de roches, les murs à pic. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont su conserver la force de la gravitation naturelle des premiers hommes. Article paru le 31 décembre 1937 sous la signature de John Forrester, pseudonyme du poète français Antonin Artaud.
Une matinée des autres au Mexique. Mémoire Tarahumara. Entretien réalisé par Jacques Meunier à Mexico avec le docteur González, ethnohistorien de l'Institut de recherche anthropologique de l'Université nationale.
Aller chez eux, pour moi, c'est pas une échappée. C'est un besoin de m'humaniser.
À Chihuahua, avec le professeur Jésus Dominguez Torres, folkloriste.
Peut-être pour vous éclairer un peu l'intérêt que je portais depuis toujours pour le Tarahumara, quelques pensées historiques pour aider à mieux situer le sujet. J'ai passé tout d'abord 3 ans chez le Tarahumara, de 1949 à 1952. À ce moment-là, j'étais un petit maître rural, apprenant aux petits indiens Tarahumara l'espagnol. Et en même temps, moi-même, faisant mes premiers pas dans la langue et la culture de Tarawa. Bien que mon nom soit Gonzalez, à la façon française Gonzalez, le Tarahumara m'appelle Oko, ça veut dire pain. Pourquoi ce nom? Je ne sais pas si le nom Gonzalez était difficile à prononcer pour eux. On peut dire mille choses.
Enfin, pain, c'est pas péjoratif.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Et des sapins, c'est la forêt la plus abondante chez les Tarahumara. C'est adapté, c'est enraciné chez eux. Donc, peut-être qu'ils me considèrent comme un des sapins de chez eux. J'ai eu la bonne chance de trouver un Indien qui, à ce moment-là, peut-être était 16, 17 ans âgé, qui est devenu mon professeur de Tarahumara et mon introducteur dans la culture de Tarahumara. Il s'appelait, et il vit encore, Erasmo Palma. Donc, je commençais petit à petit à apprendre le Tarahumara. Je l'ai appris assez bien, si l'on peut dire. Et pendant mon séjour chez le Tarahumara, j'ai eu l'occasion de préparer un dictionnaire de quelques 10 000 mots de Tarahumara que jusqu'à nos jours continue à être employé. Et une synthèse de la grammaire de Tarahumara.
Et le mot même de Tarahumara, qu'est-ce que c'est?
Tarahumara, ça veut dire l'Indien au pied léger. Et Tara, c'est la racine pour signifier la plante du pied, et Huma, courir. Et le mot vient de ce jeu, de ce sport qui est le plus connu chez eux, qu'on appelle la carrera de bola. L'explication, c'est qu'ils courent assez souvent pour s'amuser. Enfin, au moins, au début, c'était pour s'amuser. Ensuite, avec l'introduction de peuplades métisses, le jeu est devenu un peu une affaire économique. Parce qu'on fait des paris, et parfois ça coince de telle façon. Les Indiens, ils sont contraints à tenir le coup pour ne pas perdre. Donc, de l'amusement, le jeu est devenu une affaire économique. Enfin, rien à quoi s'étonner. C'est ça qui arrive dans nos civilisations, entre guillemets. Que le sport a une moindre partie de sport et une grosse affaire économique. Qu'il s'agisse de football ou qu'il s'agisse de boxe, ce sont des affaires qui se sont un peu corrompues. Et on fait des paris. Et maintenant, les Indiens eux-mêmes ont adopté cette habitude de faire des paris. Mais ceux qui font les plus gros paris, habituellement, ne sont pas des Tarahumara. Ce sont des métis qui peuvent parier, mettons, un morceau de terre, une voiture, ou la maison, ou le bétail, etc.
C'est des enjeux importants, regarde la misère des Tarahumara.
Oui, c'est très important.
Et qu'est-ce que gagne le coureur? Seulement le...
Une partie. Ça dépend des arrangements qu'il fasse. Mais d'habitude, c'est pas lui qui gagne le plus. Enfin, les joueurs sont les rarahipame. Le jeu, c'est le rarahipari. C'est le même racine. Donc, pour cela, il prépare une balle faite d'un bois dur, disons de chêne. Et il lance la balle pieds nus. Et ils peuvent courir. Je fais des calculs, je les ai accompagnés jour et nuit, parce que d'habitude, ils s'établissent la période pour ces courses lorsqu'il y a pleine lune, pour pouvoir voir un petit peu de nuit. Et disons, ils mettent deux points, le départ et l'arrivée, qui peuvent avoir une distance de 20 km. Et ils font 4, 5, 10 fois cette distance. Donc ils peuvent courir aisément 200, 300 et plus kilomètres. Ils sont accompagnés par les partisans de chaque groupe. C'est ces deux groupes opposants qui courent. Mais chaque coureur peut être accompagné par deux ou trois coureurs qui doit faire le même parcours, mais pas nécessairement lancer la balle tout le temps. Ils peuvent se... Enfin, à tour de rôle, se changer. Et ça les amuse beaucoup. Ça peut durer deux jours, trois jours. C'est une occasion, non seulement des échanges, des nouvelles, des rencontres des amis. C'est un mécanisme de cohésion sociale. Si l'on pense au début de la colonisation plutôt que de la conquête de Tarahumara, les premiers contacts ont été établis vers la fin du XVIe siècle du côté de Sinaloa, donc vers l'ouest. Le motif de cette première entrée chez les Tarahumara, c'était, comme l'on disait, dans la littérature coloniale, qu'on flairait des mines. On sentait l'air des mines. On a des récits, ils ont été conservés, de ces premières rencontres. D'un autre côté, en partant de l'état actuel, disons le département de Durango, la capitale de ce département s'appelait Guadiana. Et vers 1604, il y a eu un prêtre jésuite, catalan d'origine, le père Juan Font, qui a fait les premières démarches et les premiers contacts chez les Tarahumara, qui était avoisinant de Tepehuan, une autre peuplade apparentée à la même branche yuto-aztèque. Et on conserve ces premiers documents. Bon, comme la situation dans laquelle il s'est trouvé, c'était des conflits entre ces deux peuplades, donc il a essayé d'établir la paix entre les deux. Et il a remarqué que les Tepehuan étaient apparemment, au moins, plus belliqueux, plus évolués, mais d'un autre côté, les Tarahumara étaient très accueillants, très respectueux envers lui. Même l'on dit qu'il était censé être un grand sorcier, qui avait des pouvoirs que leur sorcier n'avait pas. Donc, il descend les vêtements, la nourriture faite à base de poudre de maïs, le pinole, que l'on continue à manger actuellement, et qui est une des bases de l'alimentation tarahumara, les haricots, des calebasses. Il décrit aussi leur maison. Enfin, d'après les plus anciens documents, l'habitant était d'une population dispersée. Ça étonne tous les visiteurs, mais je crois que l'explication, c'est une adaptation merveilleuse, étant donné le développement de leur technologie. Et d'un autre côté, l'écologie même. Et ce que je vous dis de cette adaptation de leur façon de vivre, on peut le confirmer aussi avec des études récentes de l'adaptation biologique des tarahumaras à ces conditions qui, malgré tout, sont assez maigres, assez pauvres. Donc, depuis toujours, peut-être la dispersion s'était moindre avant l'arrivée des Espagnols, mais de toute façon, à ma connaissance, c'était toujours un habitat dispersé. On trouve des détails qui frappent un peu d'après des documents anciens, disons du 17e siècle. Par exemple, il y a un récit d'un autre missionnaire jésuite qui était originaire de la Croatie, qui s'appelait Johannes Ratkai. Il était compagnon d'un autre qui était un peu cosmopolite, Joseph Neumann, qui a été le sujet de ma thèse de doctorat. Ratkai, il n'a vécu que 3-4 ans chez les tarahumaras et il est mort. Pas empoisonné, comme on disait, parce que j'ai le témoignage du prêtre qui l'a assisté à l'heure de la mort. Il dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Tandis que Neumann, il a vécu presque 52 ans chez les tarahumaras. Et il n'est venu qu'une seule fois à Mexico pour défendre les Indiens des abus de l'administration coloniale, de quelques membres de l'administration coloniale. Eh bien, Ratkai, il nous a laissé un récit de tarahumaras qui n'est pas connu. Il a été écrit en latin. C'est pour tant de projets que j'ai en tête, que j'espère réaliser un jour, de traduire toute une série de documents. Mais il dit qu'il s'est renseigné auprès des Indiens les plus âgés. Et il nous donne une description des mœurs et coutumes des tarahumaras. Il parle des croyances, il parle des courses, il parle des Indiens qui se baignaient la face avec des différentes teintures. Et il parle des géants. Et il emploie un mot qui m'a frappé depuis toujours, Uribi, qui n'est plus employé, ou presque plus employé maintenant. On emploie le mot Ogano, Oganoko, pour signifier les géants, qui est relié à toute une série de mythes à propos des Indiens, ancêtres des tarahumaras, qui étaient des géants.
Il y a très longtemps, c'était presque à l'origine du monde, des gens énormes faisaient trembler la terre en marchant. C'était une famille de géants. Ils étaient plus grands que les arbres et ils attrapaient les animaux à la course. Les tarahumaras avaient peur, car ces géants, aux pieds rapides, avaient l'habitude de dévorer les enfants. Ils les emportaient dans leurs grottes et les faisaient rôtir. Ils étaient si puissants, si méchants, que certains mouraient à la seule vue de leur ombre. Tout le pays tarahumara tremblait. Les géants avaient un appétit incroyable et ils buvaient des fleuves entiers. Il n'y en avait jamais assez. Quelquefois, c'était la famine pour eux. On les voyait rôder aux alentours des rancherias et en échange d'un sac de haricots, ils proposaient leur service aux tarahumara. Bien sûr, quand ils arrivaient dans une maison, il fallait cacher les enfants. Mais pour le travail, ah, le travail, il faisait en un jour ce que nous faisions en un mois. Un beau jour, le chef de la famille des géants vint aider à préparer le chilicote. C'est une graine que nous appelons kafosi en tarahumara. Il travailla l'après-midi entière et quand il eut terminé, il réclama de la nourriture. « Donne-lui du kafosi, » dit un vieux tarahumara. On lui en apporta 5 calebasses. Il les avala en un clin d'œil et grogna « J'en veux encore ». Nous, comme on savait que la graine de kafosi était vénéneuse, on lui en fournit autant qu'il en demandait. Le soir, ses yeux ont basculé et son corps, en s'abattant, a fait trembler la terre une dernière fois. Cano, le chef de la famille des géants, était mort. Ce fut facile ensuite d'exterminer les autres. Ils étaient grands, mais naïfs. On leur annonça que l'hiver allait être très rude. Alors ils emplirent leurs grottes de feuilles sèches et condamnèrent l'entrée en entassant des sapins qu'ils arrachaient d'une seule main. On cacha un peu d'étoupe et un tison sous les branchages. Quand le vent d'hiver souffla, le feu se mit dans la grotte et fit le reste. Et c'est ainsi que, grâce au Tarahumara, disparut la dernière famille de géants qui, encore hier, faisait trembler la terre et mangeait les enfants. Cette histoire n'est qu'une légende. Mais n'est-il pas curieux que l'on trouve dans les rapports des visiteurs jésuites une sorte de caution ou d'écho à cette fable? Ainsi, en 1696, l'un d'eux écrit « Dans la nuit du vendredi au samedi saint, les cloches de l'église du même village se mirent à sonner lugubrement, comme pour le glas d'un mort. De plus, le fleuve de Papigotchi, débordant, lança ses eaux dans l'air sous forme d'un cône qui s'élevait à plus de 12 pieds et retombait avec fracas pour continuer son cours. En mai de cette même année, dans la mission de Coco Morachi, vers 3 heures de l'après-midi, d'un jour bien calme, un missionnaire qui se tenait debout sur le seuil de sa maison vit sur les collines avoisinantes un géant colossal. Il le voyait de dos, sa tête dépassant les arbres les plus hauts. Il semblait se pencher au sol comme pour ramasser des pierres. Le missionnaire le regardait de loin. La vision dura un quart d'heure. Puis le géant disparut. Cette même année encore, le 18 avril, 2 jours avant la pleine lune, en un jour magnifique, le soleil apparut avec une ombre elliptique. Chose extraordinaire dont tout le monde fut stupéfait. Tous ces prodiges furent en partie racontés et en partie indiqués par écrit au père visiteur Neumann, qui lui aussi y voyait je ne sais quelle menace de malheur pour la mission. Aussi donna-t-il l'ordre aux missionnaires d'être vigilants et autant que possible de se tenir au courant de tout ce que les Indiens faisaient.
Je mentionnais ce récit à propos de l'habitat, parce qu'il dit que au début, il était frappé de voir que les maisons des Indiens étaient en forme d'une demi-orange, disons comme un igloo, mais pas en glace, mais en terre, avec des branches. Et que les Indiens entraient dans leur petite maison en rampant. Lorsque les missions ont commencé à se développer, on les a appris à faire des briques en terre non cuite, ce qu'on appelle adobe. Et la forme de ces maisons des Indiens christianisées n'était plus ronde, mais carrée. Donc, à coup d'œil, vous pouviez constater dans un tout petit village, lesquelles maisons appartenaient aux Indiens, encore non baptisés, et lesquelles étaient déjà des Indiens baptisés. Enfin, c'est un détail qui n'est pas très connu. À mon avis, tout le monde mythique n'a pas été exploré. Au point de vue de leurs croyances, c'est une religion, ou c'était, peut-être coexiste actuellement, astrale. Donc les Rayenari, les soleils, c'était une divinité principale, la lune aussi, mais l'élément mâle, c'était la lune. Et l'élément femelle, c'était le soleil. Vous savez en plus l'étoile du matin, Vénus. C'est pas commun, mais en même temps, c'est pas unique. On trouve dans la mythologie et dans les croyances d'autres peuplades cette inversion, disons, du point de vue de notre culture. Parce que quelle est la raison pour dire que le soleil est mâle et la lune femelle? C'est comme en espagnol, le nez est féminin et en français c'est masculin. Donc, il n'y a pas une raison tout à fait spéciale. Pour nous, peut-être ça nous trouble un peu parce que nous sommes habitués à assigner un sexe déterminé à toute une série de choses qui, dans une autre culture, c'est à l'inverse, absolument. Donc, il y a d'abord ces complexes relatifs aux astres auxquels il faudrait ajouter toute une série d'étoiles, dont les étoiles filantes, qui toujours les frappent. Lorsqu'ils voient une étoile filante, c'est un présage de mauvais augure qui est lié à l'idée de la mort, des menaces. Il y a aussi le monde des cavernes, le monde des esprits des eaux, soit des fleuves, surtout de courants souterrains qui sont habités par des esprits auxquels il faut rendre culte, il faut apaiser, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un monde qui n'a pas été exploré. Et pour moi, la raison principale de ce manque de nouvelles, l'on trouve quelques-unes, mettons chez Lumholtz, le Mexicain connu, qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français. Je crois que ça vaudrait la peine de le faire traduire. Même si ce récit d'il y a bientôt un siècle, parce que Lumholtz, qui était un Norvégien, qui a fait des récits ethnographiques d'autres parties du monde. Il a passé plus de 5 ans en faisant le parcours de toute la Sierra Madre occidentale. Et ce récit du Mexique inconnu est encore valable. Il a été un des premiers ethnographes à faire un travail interdisciplinaire. Tout au moins au début de ses recherches. Ensuite, le sou lui ont manqué et il a continué seul. Bon. Il a, dans ses bouquins, quelques éléments de croyances, de légendes, mais il manque de les faire approfondir. Et je crois que la difficulté principale, c'est que, à part quelques missionnaires qui ont séjourné pendant des années chez les Tarahumara, qui ont appris leur langue, qui seraient capables de faire des études plus approfondies, comme le père Granville, hein, au point de vue de la langue, malheureusement, ne le sont pas faites parce que leurs occupations sont tout autres. Enfin, ou leur vocation et leur préparation n'est pas celle d'un anthropologue ou d'un ethnographe. Et les ethnographes ou les anthropologues en général qui sont allés chez les Tarahumara, disons Benetton Singh, Pennington et d'autres, n'ont pas appris la langue. Donc c'est toujours par le truchement des interprètes qu'ils font leurs recherches, ou bien ont une initiation à la langue, mais pas assez. Il y a eu quelques ministres protestants qui ont fait des traductions, non seulement de la Bible, mais des récits. Mais c'est les récits seuls, parfois pas tout à fait juste dans la transcription de la langue. Et c'est un peu une matière vierge, mais il reste quelque chose. Oh, actuellement, je crois que la plupart des fêtes, on peut les classer en fêtes religieuses et fêtes civiles. Les fêtes civiles, qui sont partout au Mexique, l'indépendance, la fête de Benito Juárez et d'autres choses, qui sont un peu, comment dit-on, une chose qui n'est pas naturelle, qui est imposée, disons, un peu artificielle. Et les fêtes religieuses qui ont été adoptées par elles et qui continuent à se célébrer avec éclat. Mettons la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, les fêtes de Noël, le carême, qui est très intéressant, la Semaine Sainte, et puis les fêtes des patrons titulaires des différentes églises auxquelles ils se considèrent liés. À part ça, les autres fêtes qui seraient plutôt sportives. Mais pour les fêtes religieuses, il y a toujours un groupe de danseurs qu'on connaît comme matachines, qu'on trouve aux États-Unis aussi, même chez les Indiens. Donc c'est un groupe avec deux chefs de danse qu'on appelle les monarcos, c'est un mot espagnol, les monarques, et les danseurs qui sont habillés d'une façon un peu frappante au point de vue couleur. Et pour ces danses, ils ont des chaussures, d'habitude ils portent des sandales, ou bien les femmes surtout marchent pieds nus, mais pour la danse, ils ont chaussés. Puis ils ont une couronne avec des miroirs et des rubans, soit un toile ou bien un papier. À part ça, il y a les musiciens. Un qui joue le violon, c'est pareil. Et il l'appelle Bejorini. C'est une transmutation du mot espagnol, violin. La guitare aussi, il l'appelle comme ça. Et puis les espèces de maracas faites en calebasse, on appelle le guaji, avec des petits cailloux ou des sables.
Llevan una muestra de música de Pascola, que es bailada por un solo hombre, acompañada en algunas regiones por violín, en otras por tambor. Llevan pascolas que se ejecutan por dos hombres, como la pascola de Papajichi, y que se ejecuta.
Vous emportez des morceaux choisis de la musique pascola, qui est dansée par un seul homme, accompagné dans certaines régions au violon et dans d'autres au tambour. Il y a certaines pascolas qui sont dansées par deux hommes, comme la pascola des Papaichi, et qui est jouée au violon accompagné de tambours. Vous avez aussi des airs de matachines qui sont exécutés par des groupes de gens, 10, 20, 40, quelquefois 80. Dans ce cas, on danse accompagné de beaucoup de violons, quelquefois 12, beaucoup de guitares, et les danseurs portent des grelots. N'oubliez pas de mentionner que pour moi, parmi les musiques que vous avez enregistrées, il y en a une qui est très importante. C'est la Pascola de Papaichi, où le danseur a ce que l'on appelle dans la montagne des tenavares. Ce sont des cocons de papillons dans lesquels on met des petits cailloux et on se les attache aux chevilles pour marquer le rythme en frappant le sol. En plus, ils portent à la ceinture des sabots de cervidés, et l'on en met beaucoup, 100 ou 200 peut-être, qui ainsi marquent le rythme en dansant. Les danseurs disent que cela leur donne de la force et de la résistance pour danser et pour courir. C'est pour ça que vous entendez dans la musique de curieuses sonorités. Parfois, on entend aussi des cloches. Ces cloches sont dues à ce que l'on exécute le plus souvent ces danses devant les églises des franciscains. Et que, lorsque ont lieu ces fêtes, on appelle aussi les gens en sonnant des cloches. C'est pour cela que quelquefois vous entendez aussi des cloches.
Dentro de la sociedad que ellos tienen, es tan importante como esto. Las personas que manejan la música y que manejan las danzas dentro de ellos son personas autoridades y muy respetados.
Au sein de leur société, c'est très important. Les personnes qui sont chargées de la musique et des danses sont des autorités respectées. Il y en a même qui font vœu d'assumer pour 5 ans la charge de l'enseignement des instruments et des danses. Ils ont un rang très élevé dans la hiérarchie. Pour moi, c'est un phénomène important dans la culture tarahumara comme éducation, pour l'organisation de la communauté, car par le biais de la musique et de la danse, se réunissent les hameaux. C'est un moyen de vivre ensemble, de réunir les conseils. Je crois que c'est très important.
Hay música que, claro, sus antecedentes son de los españoles que llegaron a nuestros
Il y a des musiques qui, en effet, ont été apportées par les Espagnols à nos indigènes et qui leur ont enseigné certains rythmes et leur ont légué le violon. Mais il y a des musiques de tambour, de violon à une corde, qui, malgré tout, conservent les accents caractéristiques de la musique autochtone. Malheureusement, il y a des endroits quasi inaccessibles dans la Sierra. Nous disposons seulement de quelques enregistrements de cette musique authentique. Mais je ne crois pas que cette musique puisse disparaître un jour. Elle va vivre encore longtemps.
Le culte qu'il portait, qu'il porte peut-être camouflé au soleil, à la lune, aux étoiles, etc., n'avait pas ce type de danse, de rythme, d'instruments musicaux, de vêtements, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne dansait pas, parce que je crois que tout le peuple a une sorte de danse, hein, mais qui était peut-être plus simple, plus sévère. Donc l'adaptation est venue avec tous les procès adaptatifs de l'intrusion de la culture occidentale qui avait des choses bonnes et des choses mauvaises, qui a amélioré d'une certaine façon leur nourriture, qui a amélioré leurs vêtements, qui a amélioré un peu aussi leur vie en général avec l'introduction par exemple du bétail. Par exemple, ils ne mangeaient jamais la viande de vache parce que plus au nord il y avait les cibolons, mais chez eux, il n'y avait pas de vaches. J'ai des récits de Neumann, par exemple, où l'on dit que lorsqu'il a fait sa profession religieuse dans un endroit qui s'appelait Matachi, il raconte que pour fêter le village, on a tué je ne sais pas combien de vaches. Il disait que c'était une vraie délice pour eux, la viande de vache. Bon, d'une façon analogue, je crois que les rythmes qu'il portait se sont enrichis d'une certaine façon avec de nouveaux rythmes, avec de nouveaux instruments. D'une façon analogue, l'adaptation des danses et des cérémonies religieuses a été entraînée avec tout l'ensemble. Pour moi, le fait que ces cérémonies continuent jusqu'à maintenant, comme l'organisation sociale qu'ils ont, prouve que les éléments se sont, je ne sais pas si le mot existe en français, autochtonisés. Ils se sont appropriés les éléments qui les servaient. Autrement, ils auraient refusé. Une autre, toute autre chose serait jusqu'à quel point ils ont adopté les fonds des croyances. Parce qu'il y a une adaptation, une acceptation des éléments externes. Mais jusqu'à quel point il y a eu et continue à l'être un refus, même camouflé, question de diplomatie, de survivance, ou bien ils se sont convaincus que ces croyances étaient propres pour eux, étaient bienveillantes pour eux ou pas. Ça, c'est un problème très, très ardu, très difficile. Mais je crois que, comme partout, il y a eu et il y a des individus qui se sont convaincus de sa croyance et qui sont nés déjà dans cette croyance. Mais malgré tout, malgré la sincérité de cette acceptation, je crois qu'il y a un problème de transmission de ces messages qui soit incarné dans leur cadre de pensée, de sensibilité, de sentiments, d'expectations, et qui ne soit pas un message étranger, occidental. Vous vous rappelez peut-être, comme français, les problèmes qui se posaient autrefois vis-à-vis des rites orientaux, avec les premiers Français des missions étrangères de Paris qui sont allés dans l'Indochine et qui a eu des problèmes non seulement avec les populations mais avec le Vatican, parce qu'on avait une mentalité, une optique tout à fait occidentalisante. On croyait que l'Église devait être uniforme sur toute la face de la terre, et pour moi ça c'était amputé un peu la richesse d'un message qui, si se considère universel, doit être capable de se présenter de n'importe quelle façon, d'après les exigences de chaque population.
Les Tarahumara sont un défi à ce monde, où l'on ne parle tant de progrès que parce que sans doute on désespère de progresser.
Une des danses autochtones que je veux vous mentionner, qui s'appelle les Yumari. Yumari, ça veut dire sauter, courir en sautant. Les explications qu'on donne de cette danse ne sont pas assez convaincantes actuellement. Mais enfin, c'est une danse dans laquelle il y a le chef de danse accompagné de deux ou trois qui font les mêmes pas en avant et en arrière, actuellement devant trois croix avec des offrandes de tortillas, du maïs, des haricots, de viande. Autour de ces danseurs qui dansent sur un parvis, soit en face de leur maison, soit au grand air, il y a le peuple d'un côté, les hommes d'un autre côté, les femmes. Après toute une série de pas en avant et en arrière qui sont accompagnés par ce semi-cercle du peuple, dans un autre mouvement de danse, le cercle se serre et, dans un sens, dansent les hommes et, dans les sens opposés, les femmes. Quel est le but de cette danse? Je trouvais dans une grammaire du père Thomas Guadalajara du 1683 ou 4, publié à Puebla de Los Ángeles, en Mexico. que je commençais à feuilleter pour voir de quelle façon il présentait la grammaire. Au moment le plus inattendu, lorsqu'il parlait de la poésie Tara Omar, il donne comme exemple un morceau qu'il avait entendu des mots qui accompagnaient cette danse. C'était une danse à la lune, à laquelle on demandait que les brebis prospèrent afin de produire bonne laine et pouvoir ensuite filer des tissus et une excellente couverture pour les protéger du froid. Mais le missionnaire ajoutait, il y a d'autres strophes que je ne mentionne pas parce qu'il s'agisse des choses non propres. Enfin, la pudeur qui parfois nous tracasse. Qu'il serait mis ce qu'il avait entendu, c'était un document. Hein. Mais enfin, son point de vue, c'était tout autre. Donc, ces danses sont pour demander des faveurs aux divinités, pour expier des péchés, disons, entre guillemets, de mauvaises actions, pour demander que des calamités n'arrivent pas. Par exemple, c'est assez commun de constater chez les tarahumaras des bruits qui courent un peu partout. Il y a eu un enfant qui est descendu du ciel et il a dit qu'il faut faire des sacrifices de vaches blanches, de chèvres blanches, de brebis blanches et de poulets blancs. Si vous ne faites pas ça, alors le ciel va tomber sur nous et il va nous écraser. Dans d'autres occasions, le message dit que si l'on ne fait pas les sacrifices, donc il ne pleuvra pas. Donc, les semailles ne vont pas prospérer, il n'y aura pas de récolte. Et nous, on va mourir de faim. C'est indien que j'ai mentionné tout au début, Erasmo Palma. Un jour, lorsqu'il m'apprenait, et à d'autres compagnons, le Tarahuma, après la leçon, il est parti dans une petite colline et il commençait à chanter des airs qui étaient assez tristes. Un de mes amis qui connaissait comment transcrire la musique en notes, en partiture, il a écouté et il a commencé à les mettre. Il disait, je suis très triste, la pluie ne vient point, le maïs ne va pas mûrir et nous allons mourir tous. Et la cohésion, l'harmonie entre les mots et le rythme, c'était fantastique. Je me rappelle encore de cette musique. Il disait Weneomonati ki Tashinorina keuki ki Wetashu wiboba erotea. C'était comme une élégie, un chant de mort. Donc, dans ces danses, auparavant, on chantait. Et on chantait non seulement des mélodies, mais des mélodies accompagnées des mots. Quel était le texte de ces mélodies? Malheureusement, c'est perdu. Je vais vous donner un détail qui explique, à mon avis, pourquoi nous avons des lacunes de documentation historique vis-à-vis de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 siècles. En 1767, lorsque Charles III a décrété l'expulsion des jésuites de tous ses domaines en Amérique latine et aux Philippines, les commissionnés pour faire l'inventaire de tous les biens des jésuites sont partis de Mexico dans toutes les directions. Celui qui a été chargé d'aller chez le Tarahumara, donc il a fait tout le parcours d'ici jusque-là, peut-être un mois et demi de course. Il est arrivé à Chihuahua et ensuite il a fait le tour de toutes les missions. Il a fait l'inventaire des biens foncières, soit des terres de culture, soit des bâtiments, tout ce qui constituait les trésors des églises, les ornements, les chasubles, les calices, etc. Et l'inventaire des livres, des bibliothèques. J'ai eu l'occasion, enfin la bonne chance de trouver ces inventaires, mais qui avaient un décalage d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. Et la liste des livres ne coïncidait pas. Alors je me suis mis à tâcher de chercher pourquoi cette différence. Donc, finalement, le vice-roi demandait des explications. Et un document disait, oui, au début, c'était ces bouquins, mais il y a quelques-uns qui sont perdus à cause de l'humidité, etc., d'autres qui ont disparu. Et l'évêque de Guadiana, de Durango, a demandé de le faire envoyer ce livre pour leur utilisation dans le séminaire du diocèse. Mais le type qui a été chargé de mulets pour faire transporter tous ces livres, donc il a fait un choix. Il a dit, ce livre, c'est imprimé. Espagnol, français, latin, je ne sais pas quoi. Ça, il mettait tous les bouquins imprimés d'un côté. Les papiers manuscrits en espagnol, il les a mis dans un autre morceau. Mais les autres qui étaient dans une langue que personne ne comprenait. Puis à quoi bon ça? Bon, on va épargner au vice-roi quelques sous et on va vendre ça à un type qui fait des jeux pyrotechniques pour faire des couettes. Et il a vendu tout ça pour faire des fusées. Et c'est à cause de ça qu'on a perdu toute une série de documents qui peut-être auraient été précieux pour nos connaissances. Il y a quelques textes historiques, par exemple, un qui a été écrit en 1654 par un licenciado, Diego Medrano, qui parle avec un respect extraordinaire des Indiens Tarahumara. Il dit ils sont des gens différents. Ça, c'est une toute première chose. Constater la différence parmi les hommes. La différence dans l'égalité fondamentale. Parce que lorsqu'on veut établir tabula rasa pour tous les hommes, à part de commettre une injustice, on coupe toute une série de créations de l'homme. Donc, il constate la différence des Indiens. Et il parle des vertus et des vices. C'est déjà beaucoup. Parce que plusieurs, avec une vision ethnocentriste, parlons des vices des autres. parce que ils n'agissent point comme nous. Dans la norme, les critères de valorisation, c'est notre culture, notre conduite, nos valeurs, notre comportement, enfin, notre vision du monde. Et lorsqu'il n'y a pas une correspondance, c'est toujours un jugement péjoratif que nous portons sur les autres. Il y a un autre document du XVIIe siècle aussi qui parle d'un missionnaire. Je ne vous dis pas le nom parce que c'est anonyme. Peut-être par l'étude des données qui se trouvent à l'intérieur du document, j'arriverai à établir qui l'a écrit. Mais il se pose la question de ce qu'ils disent à son alentour vis-à-vis des mœurs, de la morale des Indiens, et en concret des mariages. Et il dit que j'ai écouté assez souvent qu'ils sont des polygames, qu'ils n'ont aucun principe moral, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et il dit, mais ça c'est absolument faux. Si ces Indiens n'avaient pas ces principes, ils n'existeraient plus. Donc la survivance prouve qu'il y a des principes de coexistence ou de convivance. Que nous les ignorions, c'est une toute autre chose. Qu'il y ait des polygames, mais ça ne doit être pas étonner personne. Mais ce n'est pas la règle générale. Ils respectent les mariages uniques. Et ça me rappelle une autre histoire de ces informants Erasmopal. Il y a 2-3 ans, il est venu à Mexico pour travailler avec moi. Il était chez moi et je lui dis, mais Josy, la chambre où vous voulez dormir. Enfin, je n'ai que 3, 2 pleines de livres. En haut, j'ai un autre. Donc il a vu, il dit, montons. Il a monté. Il dit, je reste ici. Il dit, mais c'est plus froid. C'est la chambre de service, qui a tous les services, mais enfin, c'est, comme c'est pas habité d'habitude, c'est plus froid. Mais si, ici, je suis à l'aise. Je lui demande pourquoi. Il dit, mais tu sais, ici, en ville, tout le monde vit enfermé. N'importe où, tu es enfermé. Il y a des couloirs, il y a des rues. Ce n'est pas les grands espaces. Ici, au moins, j'ai un balcon. Je peux voir la Jusco d'un côté. La nuit, je peux sortir, respirer un air plus pur. Enfin, je ne me sens pas en prison. Donc, il m'a laissé ces impressions. Et il disait, mais ici en ville, on ne peut pas vivre sans sous. Tout l'on achète. Tu veux lumière, tu dois l'acheter. Tu veux chaleur, tu dois l'acheter. Tu veux manger, tu dois l'acheter. Tu veux aller t'amuser, tu dois acheter l'amusement. Tu veux te promener, tu dois acheter ta promenade. Je ne sais pas comme ça. Mais vous avez des sous. Enfin, pour tous les échanges, il faut des sous. Oui, dit-il. Ça, c'est une chose bonne, mais c'est une chose mauvaise aussi. Parce que lorsqu'on s'habitue uniquement aux sous, tu es perdu. Tu n'es plus homme. Il dit, chez nous, par exemple, ta récolte peut être mauvaise. Tu peux faire la cueillette des 12 épis de maïs. Ça te suffit pour ta faim en ce moment-là. Lorsque un autre aura la faim, il pourra cueillir de chez toi 12 épis. Si tu vas en te promenant, question de travail, question d'amusement, de promenade, tu arrives chez quelqu'un, il t'offrira pinole, donc maïs en poudre, des haricots et des tortillas. Il ne va pas te dire c'est combien de pesos, non? Parce qu'il sait que lorsqu'il se trouvera dans la même situation, tu vas lui offrir ça. Ici en ville, ce n'est pas possible. Donc pour moi, une chose qui me frappe beaucoup, c'est sa capacité de réflexion. Ils sont des philosophes. Mais le choc pour un étranger, c'est qu'ils sont fermés, ils sont hermétiques. C'est un mécanisme de défense.
De philosophie, les Tarahumara sont obsédés. Et ils en sont obsédés jusqu'à une sorte d'envoûtement physiologique. Il n'y a pas chez eux de geste perdu, de geste qui n'ait un sens de philosophie directe. Les Tarahumara deviennent philosophes absolument comme un petit enfant devient grand et se fait homme. Ils sont philosophes en naissant. Et le bandeau aux deux pointes dans le dos signifie qu'ils sont d'une race originellement mâle et femelle. Mais ce bandeau a encore un sens historique évident. Les Puranas portent le souvenir d'une guerre que le mâle et la femelle de la nature se sont faites. Et les hommes autrefois ont participé à cette guerre où luttaient l'une contre l'autre les forces des deux principes opposés. Et les partisans du mâle naturel arborèrent la couleur blanche, ceux de la femelle, la couleur rouge. Et c'est de ce rouge ésotérique et sacré que les Phéniciens de race femelle ont tiré l'idée de la pourpre qu'ils ont ensuite industrialisée. Or, si la race des Tarahumara porte un bandeau tantôt blanc et tantôt rouge, ce n'est pas pour affirmer la dualité des deux forces contraires. C'est pour marquer qu'à l'intérieur de la race Tarahumara, le mâle et la femelle de la nature existent simultanément et que les Tarahumara bénéficient de leurs forces jointes. Ils portent en somme leur philosophie sur la tête. Et cette philosophie réunit l'action des deux forces contraires en un équilibre quasi divinisé. Antonin Artaud.
Je crois que ces impressions sont assez compréhensibles étant donné la situation dans laquelle se trouvait Artaud, non seulement au point de vue de la drogue-addiction qu'il avait, mais aussi les difficultés que lui personnellement avait expérimentées, soit en France, soit à Cuba, qui était en contraste avec l'acceptation qu'il a eue ici, à Mexico, parce qu'il a eu les facilités qui lui ont été octroyées au temps du président Cárdenas. Donc il a eu toutes sortes de facilités pour aller faire ses expériences, ses recherches chez le Tarahumara. Donc il arrive avec cette atmosphère de cordialité, ces possibilités de pouvoir transmettre ses impressions, comme il l'a fait dans quelques journaux de cette époque à Mexico, introduit comme ça chez le Tarahumara sans aucune contrainte d'émotivité politique, de santé. Donc il a halluciné un peu. Pour moi, ces témoignages n'ont pas tellement une valeur anthropologique, mais la valeur d'une réflexion philosophique. Les données, il y a quelques-uns qui sont congruents avec la réalité, mais d'autres qui sont plutôt fruits d'une fantaisie. J'ai lu quelques-uns de ses études, soit réunis dans un volume, soit de chez les Tarahumara, qui a été traduit il y a quelques années en espagnol, dans des éditions de poche, et qui frappe à plusieurs, et qui peut-être font du bien. Mais l'opinion varie beaucoup selon qu'on le considère comme un témoignage de réalité ou bien comme un témoignage d'expérience personnelle. Pour lui, je crois que son séjour chez les Tarahuma lui a fait du bien. Et que c'est cette expression des Tarahuma sont assez respectueuses, même enthousiastes, parce qu'il a été bien reçu.
Toute la vie des Tarahumara tourne autour du rite érotique du peyotle. La racine du peyotle est hermaphrodite. Elle porte, comme on le sait, la forme d'un sexe d'homme et de femme rassemblés. C'est dans ce rite que réside tout le secret de ces Indiens sauvages. La force m'en a paru symbolisée par une râpe, une espèce de bois recourbé couvert d'entailles sur lequel, pendant des nuits entières, les sorciers du peyotle font grincer rythmiquement des bâtonnets. Mais le plus étrange est la façon dont les sorciers sont recrutés. Un jour, un Indien se sent appelé à manier la râpe. Il va la chercher dans un coin sacré de la montagne où depuis des milliers d'années dort une collection incroyable de râpes que d'autres sorciers ont enterrées. Elles sont en bois des terres chaudes, disent-ils. Le Tarahumara va passer 3 ans au-dessus de cette plantation de râpes et au bout de la 3e année, il revient, possesseur du rite essentiel. Telle est la vie de cet étrange peuple sur lequel aucune civilisation n'aura jamais d'emprise. Antonin Artaud.
Parler de Tarahuma et ne pas parler du peyote, de Hikuri, et ne pas parler du Tezuin, les batailles, ça laisserait une lacune assez grande. Donc, auparavant, les peyotes étaient employés non seulement par les Tarahuma, par les Kora, par les Huichol, même au centre du Mexique. Il y a des documents du XVIe siècle qui parlent du peyote comme d'une plante qui est liée à des conceptions hétérodoxes. Actuellement, l'emploi du peyote est plus répandu chez les Kora et Huichol, surtout les Huichol, que chez les Tarahuma, et plus encore au sud des États-Unis, chez les populations indiennes, qui ont même constitué l'église peyotiste. Donc il y a le bouquin, par exemple, de Weston Labarre sur les peyotes. On me disait que au cours d'une 20aine d'années, l'emploi du hikuri avait diminué beaucoup chez les Tarahuma. Je crois que d'une certaine façon, si c'est vrai, mais d'un autre côté, je crois que c'était un procédé des Indiens pour ne pas être suspect vis-à-vis des autorités civiles et des missionnaires. Des missionnaires, parce que toute la documentation qu'on conserve dans la colonie, c'était contre le pays, par les croyances qui l'enveloppaient, qui n'étaient pas chrétiens. Et c'était la même attitude contre les batari, les tezuin, les boissons faites de maïs fermenté, qui étaient aussi liées à des ivrogneries, des choses qui allaient contre la morale chrétienne. Mais aussi du côté des autorités civiles, parce que c'est une drogue, il y a des règles, réglementations qui interdisent l'emploi des psychotropiques. Et en fait, j'ai vu des documents du maire, du président municipal, du lieutenant du président municipal, autorisant la célébration du peyote. Et l'ont montré pour éviter des exactions. Donc ces deux raisons expliquent un peu pourquoi, apparemment, le culte du peyote a diminué. Pour moi, qui a eu la chance d'être invité à participer à ces cérémonies qui sont exclusives des Indiens, ou bien des personnes auxquelles ils s'attachent respect et confiance. Donc, il y a 2 ans, ils m'ont invité pour la première fois à participer toute la nuit, en hiver, parce que c'est une cérémonie qui ne se fait qu'en hiver. Parce qu'ils disent que lorsqu'il commence à faire un peu chaud, ça fait du mal, physiquement et psychiquement. Ça, c'est une conviction qu'ils ont. D'autre part, c'est congruent avec une idée qu'ils ont aussi, que je l'ai constaté dès le début. Si vous approchez quelqu'un qui a pris le peyote et vous ne l'avez pas pris, donc vous pouvez devenir fou. Donc, il affole un peu. La cérémonie, pour moi, c'est une des plus importantes dans le culte, dans la croyance des Tarahumara. Et c'est une synthèse de toute la vie des Tarahumara. Donc, c'est par invitation. L'endroit où va se tenir la cérémonie ne se connaît qu'au dernier. Ça doit être un endroit vierge, au grand air, dans un clair d'une forêt, de nuit. Il y a tous les préparatifs qui consiste tout d'abord à inviter les sipame. Sipame, ça veut dire celui qui rappe, les rappeurs, disons, du peyote, parce qu'il a un bois allongé avec des crêlures, des encoches, avec des encoches, un cocher, oui. Et il le pose sur un autre bois fait de la racine d'un arbre qui a le tronc rouge qu'on appelle manzanilla. Donc, il met cette jicara, comme on appelle le sol, et au milieu, il met les morceaux desséchés du peyote. Sur cette jicara, il met son bois encoché et avec un autre morceau de bois, une espèce de branche mais dure, il commence à faire descendre et remonter ce bois. Et ça produit un bruit sourd. Ceci permet peut habiter de 3-4 jours. Et il s'est fait inviter 3 fois. Et chaque fois, il s'approche, disons, une journée. Pendant tout ce temps-là, il doit être nourri, enfin, d'une façon gâtée. Il arrive finalement, le peuple invité est réuni, toutes les femmes surtout, qui ont préparé la nourriture pour toute la nuit, qui consiste en viande, bœuf, ou si ça est devenu un peu rare ou trop cher, frijoles, haricots, tortillas et tesouines, patates. Il y a en plus un metate, c'est cette pierre pour moudre, qui doit être vierge aussi, et qui ne s'emploie que pour cette fois-ci. Pour moudre le peyote. On le moue avec un peu d'eau. Et ça tombe sur une autre jicara Et ça va être, disons, la communion pour les participants qui s'asseyent sur une poutre ou un tronc à côté du cipame, disons, les prêtres du peyote. De temps en temps, le cipame, à part de râper le bois, il chante. Mais c'est très difficile de discerner les mots. Parfois, ce n'est que deux mots. J'ai entendu Onoruame, celui qui est notre père. Warula, le grand. Des mots. Et ensuite. Je crois que même le Sipame ne connaît plus le mot. Lungholz, il donne un morceau de texte. Et il continue son chant, puis il arrête. Il y a d'autres qui dansent. Il y a des offrandes. Et la nuit se passe à intervalles de chants, de danse, de nourriture, de boissons. J'ai passé toute la nuit debout sans me fatiguer. Mais il y avait un ami à moi qui était très fatigué. Et il s'est écarté un tout petit peu pour se reposer. On est allé le chercher. Voilà, ton poste est ici, hein? Ton obligation est ici. Hein? Et c'était un prêtre Tarahumara, l'unique qui existe à ma connaissance depuis toujours. Hein? Le Père Jésus Diel, qui aime le Tarahumara, qui s'est réadapté après toute sa formation. Hein? Mais il était fatigué, il est allé se coucher. On lui a dit non, viens ici. Hein?
Est-ce que les Tarahumara donne un sens ou donne l'obligation de prendre cette drogue de manière rituelle? Si d'aventure on ne respectait pas le rituel, qu'est-ce qui se passerait?
Ah, il serait réprimandé.
Et est-ce que ça aurait des conséquences? Est-ce que des gens... Parce que moi, j'ai étudié quelques drogues de l'Amazonie. Et là, les Indiens prétendent que si on ne respecte pas le rituel, s'il n'y a pas un prêtre, si, etc., on risque de devenir fou. Enfin, de rester... Oui. La drogue risque de rester à l'intérieur et de ne jamais sortir.
Je ne crois pas que ce soit le cas. Qu'il sera honteux de sa conduite, oui, parce qu'ensuite il sera blâmé par les autres. Voilà, celui qui s'est rié un peu des autres,
qui s'est moqué des autres,
qui s'est moqué des autres. Hein. Mais c'est d'autant plus important que pour moi, la divinité suprême de Tarahumara, c'est les Hikuri. Ou bien il y a une rivalité entre les Hikuri et une autre plante qu'on appelle Bacanoa, que je n'arrive pas à l'identifier parfaitement. Parce qu'on m'a donné des descriptions un peu différentes. On dit que c'est un autre cactus, un autre que c'est une espèce d'herbe qui pousse dans les ravins. Et à cette occasion-là, où j'étais, il s'agissait précisément d'apaiser les Bacanoa. Et c'était un vieux coureur de balles, qui avait, je crois, plus de 80 ans, et qui sentait que ses jours approchaient de la fin, et il voulait mourir tranquille. Et il avait quelque chose dans sa conscience qui l'a tranquillisé, parce qu'il avait fait autrefois une cérémonie contre la vie du Bacanoa. Donc, cette fois-ci, il faisait un rituel au Hikuri pour apaiser le Bacanoa. Et c'est ça qui me fait douter de la suprématie dans sa conception religieuse, soit du Hikuri, soit du Bacanoa. Mais c'était absolument frappant. La conviction, la foi de cet homme, en plein hiver, soumis, assujetti à toutes les cérémonies du rituel comme un enfant.
Et ce rituel, évidemment, cette prise de drogue, c'est un acte social. C'est-à-dire que c'est un appel à la communauté pour réparer quelque chose, pour rééquilibrer, Et quels sont les effets? Est-ce qu'il y a des effets hallucinogènes?
En fait, la quantité de peyote, c'est minime. Donc, pour moi, incapable à produire une hallucination, ou bien à un état d'intranquillité mentale maladive. Non, pour moi, l'effet, c'est surtout psychologique, d'un côté, et d'un autre, de la révérence qu'il porte au peyote. Il ne le touche pas avec la main. On leur donne à boire. Et en face de chacun des participants, on fait un trou dans la terre pour cracher ensuite les restes fibreux du peyote. Il ne le touche pas. Si quelqu'un le touche, c'est, disons, une espèce de sacrilège. Il peut mourir. Même s'il ne touche pas les peyotes, mais les offrandes faites aux imams, aux prêtres du peyote. Et on m'a raconté un cas de deux jeunes filles qui étaient affamées, ne trouvaient point à manger. Une année de grande sécheresse. Leur père était sorti et ils n'avaient plus à manger. Donc ils sont allés chercher dans d'autres maisons, même s'ils respectent la propriété de chacun. Donc, la faim, c'était assez grande comme pour franchir cette barrière. Finalement, ils arrivent dans une hutte, ils voient un morceau de viande, ils disent voilà, nous sommes sauvés. Plus tard, ils ont appris qu'elle a habité les Ibarres et que c'était la viande qu'on lui avait offerte pour ce service. Les deux sont mortes. Donc, c'est cette révérence, mais extrême, que je ne constatais nulle part ailleurs dans d'autres cérémonies religieuses. Et les expressions qu'on m'a fait sentir du respect de la façon dont il s'adresse au peyote, me font penser à ça, que c'est une divinité ou une manifestation du soleil, je ne sais pas. Je n'ai pas une explication assez logique, assez cohérente. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une divinité supérieure, extrême. Donc ces cérémonies du peyote se font toute la nuit, ça passe comme ça. Et une fois que le soleil va sortir, il y a quelqu'un qui regarde la lumière qui commence petit à petit à apparaître sur l'horizon. Et au moment de la sortie du soleil, donc il a une vinculation avec le soleil, hein, il communique. Ensuite, et tout dans un respect extraordinaire, j'étais étonné de voir de quelle façon il maniait la sociabilité avec la religiosité. Donc, une fois que tout est terminé, le rituel comme tel, il y a, disons, le colophon. Les gens qui ont participé et les autres invités doivent ôter leur chemise et leur chemisette. Et, dos nu, ils reçoivent de l'eau extrêmement froide. Oh, c'est terrible, hein? Les vieillards qui étaient, disons, les protagonistes de la cérémonie, avec une passivité, il a reçu la purification finale, parce que c'est un rite purificatoire. Son visage s'est illuminé. Il disait, maintenant je peux mourir en paix. Et ce qui me troublait, c'est fini. Et puis, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a dans cette cérémonie ou autour de cette cérémonie une synthèse de la vie tahamar, c'est qu'il y a des jeux, des courses, mais courtes. Il y a la convivance, il y a les différentes scènes de la vie quotidienne comme un maillon dans un noyau. Donc ça, c'est très, très important. Et ça ne s'est fait, comme je vous disais, qu'en hiver, jusqu'à l'année prochaine. Comme ça.
Dans le violon en bois de sapin, j'enterre, mon enfant, la musique. Sous les aiguilles du sapin, qui sont des notes sèches, mortes, en haut du mont de la roche silence. Sept murailles encerclent la ville avec au centre la prison et l'énorme revolver qui pend à la hanche de l'homme. Je veux entrer. Les portes se ferment. Je veux sortir. Les portes sont fermées. Sept murailles comme les bandeaux de front de sept apaches mescaleros. Dans les racines du sapin, le sang parfait de mon enfant grandit l'âme des musiques futures. Et dans le cœur secret du tronc, des violons se modèlent à sa forme. Je monte un cheval blanc. D'un bond, il franchit les sept murs. Je galope dans la roche silence, au pays des taupes immenses, où le germe du maïs est plus haut que sept clochers d'église. Je joue de la roche silence, appuyé contre mon menton. À mon archet, un boyau de ciel bleu. Les autres dansent, d'autres mangent ou font l'amour. Les plus saouls, les plus heureux vont se diluer dans le feu. Sur les traits bleus d'un cahier blanc, les signes neufs, bien plus étranges que les portées antiques et connues de la lune.
Une matinée des autres au Mexique.
C'est vrai qu'actuellement, avec l'introduction du chemin de fer Chihuahua-Pacifico, avec des routes qu'on est en train de construire maintenant, je crois un peu suspendu, mais les projets de la route Grande Vision et d'autres, peu à peu, vont couper l'isolement de cette contrée et d'autres du Mexique. C'est comme toujours, ces procès entre civilisations sont des armes à double tranchant.
C'est-à-dire qu'ils vont être accordés au temps universel. Enfin, universel, au nôtre, qui devient universel.
D'une certaine façon, je crois qu'il faut évoluer vers un métissage qui, dans des générations à l'avenir, peut-être vont se fondre.
Pour l'instant, c'est encore, on pourrait dire, un des derniers peuples solitaires.
Mais pas solitaire, pas tellement solitaire. Parce que je crois qu'on se trompe beaucoup à penser qu'il y a des peuples solitaires. Actuellement, il y aura des peuples plus ou moins isolés, mais aucune absolument isolée. Mais je me pose toujours la question, pourquoi soit les Tarahumaras, soit n'importe quel autre peuple de l'Amérique latine ou d'autres continents, ne peuvent pas évoluer sans laisser d'être ce qu'ils sont. Donc pourquoi les Indiens ne peuvent continuer à être des Indiens avec les bienfaits que les progrès de l'humanité peuvent leur apporter.
Les Tarahumaras sont un défi à ce monde où l'on ne parle tant de progrès que parce que sans doute on désespère de progresser.
Mais la façon d'introduire les possibilités de remplir ce manque, les rythmes, non l'imposition, même dans des questions vitales comme la santé, comme l'alimentation. C'est très délicat. Avec la meilleure bonne volonté, on peut tuer des populations.
Mémoire Tarahumara. Entretien réalisé par Jacques Meunier à Mexico avec le docteur González, ethnohistorien de l'Institut de recherche anthropologique de l'Université nationale, à Chihuahua, avec le professeur Jésus Dominguez Torres, folkloriste. Poème. Violon Tarahumara, inédit de Michel Alves. Texte. Les Tarahumara, Antonin Artaud, édition Calimard. Les derniers adorateurs du peyote, Marino Benzi, édition Gallimard. Révolte des Indiens Tarahumara, manuscrit de Joseph Neumann, traduit du latin, introduit, commenté par le docteur González. Édition Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Lue par André Almuro et Jacques Franz. Prise de son Jean Deloron. Réalisation Anne-Marie Abou.
Música tarahumara para la danza de los matachines.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 mars 1981. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des Nuits de France Culture.